pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Selon une enquête réalisée par l'hebdomadaire La Vie, si 70% des Français sont baptisés, seulement 4,5% d'entre eux ont une pratique religieuse régulière et vont à la messe le dimanche. Si on se base sur des critères plus subjectifs, en gros 37% de nos compatriotes se déclarent croyants. Dans le même temps, une enquête des pompes funèbres générales datant de 2013 nous apprend que 70% des Français également continuent de choisir des obsèques religieuses ou du moins d'en recevoir. Donc en gros, pour entrer dans la vie et en sortir, on se tourne vers l'Église. Comment cela se fait-il? Pourquoi ces besoins à ces moments-là? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui. On se souviendra en revanche de ces chiffres en constatant que de la même façon, de nombreux Français issus de l'immigration ou résidents français étrangers, musulmans mais pas forcément pratiquants, expriment à la fin de leur vie le souhait d'un enterrement religieux, dans le pays de leurs ancêtres ou de leur enfance, au bled, comme on dit. Dans ce cas, l'explication est complexe également. S'y ajoute l'absence de services musulmans en France et les tarifs prohibitifs pratiqués par les cimetières et autres pompes funèbres de notre hexagone. Si on prend l'exemple des Algériens résidant en France, le mouvement est devenu si massif que depuis janvier 2017, le gouvernement algérien, dans un élan patriotique, a carrément décidé de financer entièrement le rapatriement des dépouilles de ses ressortissants avec un fonds spécial qui s'appelle la Caisse de solidarité de la communauté algérienne établie à l'étranger. Selon le journal Algérie Focus, le transfert d'un corps vers son pays d'origine depuis Paris coûtait jusque-là entre 2400 et 2600 euros et pouvait aller jusqu'à 2800. Ce qui n'était pas très cher comparé à la moyenne de 3500 euros hors concession d'un enterrement en France, mais coûteux quand même pour les familles. Ces enterrements sont aussi l'occasion pour certaines familles de découvrir un pays qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles connaissent peu, comme on l'entend aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre avec deux histoires d'enterrements racontées par une femme, une fille et un fils jusqu'à 14h sur France Culture par Siam Boutata.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Karim, j'ai 44 ans. Je suis né en France, à Paris, dans le 13e arrondissement. Je suis issu d'une famille de 5 enfants, donc j'ai 4 sœurs. Moi, je suis le garçon, je suis l'avant-dernier. Mon père était d'origine kabyle, ma mère est française. Ils se sont rencontrés à la fin des années 60, et puis à partir de là, on a toujours vécu en France. Culture occidentale, à la française. J'ai eu une fois l'occasion d'aller au pays, mais j'étais petit, j'avais 17 mois, donc aucun souvenir, bien évidemment. Voilà, et puis il y a maintenant 2 ans, ça s'est passé le samedi 16 mars 2015. Je reçois un coup de téléphone dans l'après-midi, et en fait, je tombe sur ma maman qui m'explique que mon papa est parti. Mon père, en fait, étant d'origine kabyle, je savais que... Par tradition, il fallait que le corps de mon père soit rapatrié au pays. Donc avec ma mère, avec mes frangines, on avait plein d'interrogations, comment ça va se passer, etc. Et très vite, en fait, le décès de mon père a fait le tour de la famille. Donc la famille, très vite, est venue vers nous en nous disant « Rassurez-vous, on va s'occuper de tout, à savoir que tout est pris en charge. » Et c'est là que j'ai appris l'existence de ces fameuses caisses de famille, ces caisses de village, où en fait c'est un système solidaire où tous les membres de la famille cotisent pour justement pallier à des décès, à des mariages, voilà, pour gagner un financement. En termes de solidarité, ça m'avait assez étonné. Il y a même mon billet d'avion qui a été payé, j'étais assez scotché. Et donc du coup, j'ai découvert qu'il y avait tout un protocole suite à un décès. Après, dans le déroulé des choses, effectivement, bon, il y a eu la levée du corps, ça s'est passé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Tous les membres de la famille sont présents. Et en haut, dans cette pièce où tout est mis en scène, et mon père, en fait, est dans un cercueil avec un linceul blanc. Il est beau. Et je m'attendais à ce qu'il soit en costume, à la française, à ces beaux apparats dans son cercueil. En fait, non, il était dans un linceul blanc. Il y avait des épices, et puis dans ma tête, je me dis, maman, pourquoi tu l'as pas habillé avec son costume, hein? Et c'est là que je comprends, parce qu'il y a un imam. Alors, pour la petite histoire, mon père n'était pas du tout pratiquant. Et puis il vivait à l'occidental, mon père. Hein. Je veux dire, faut pas se cacher, ça lui arrivait de boire. De temps en temps, il mangeait du porc. Enfin voilà, il n'était pas musulman pratiquant. Sur le moment, je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a un imam. Et tiens, bon, bah, ça va se passer comme ça, apparemment. J'étais loin de mes surprises. Ma maman a voulu embrasser mon père une dernière fois. Et l'imam a mis entre guillemets son veto en expliquant qu'il ne faut pas toucher le corps, etc. etc. Mais il était hors de question que j'embrasse pas une dernière fois mon père et que ma mère non plus. Et je me souviens, ma maman qui est toute petite, le cercueil qui était un peu haut, il a fallu que je lui fasse un petit peu la courte échelle pour qu'elle embrasse son mari. Malgré les regards noirs de l'imam, on a passé outre. Voilà, c'était son mari, c'était mon père, on l'embrasse. Donc voilà, moi je voulais absolument accompagner mon papa au pays. En fait, on a pu se rendre au consulat et on a pu avoir très très vite nos visas parce que dans le cadre d'un décès, curieusement, l'administration algérienne est très efficace. Du coup, on part à l'aéroport, donc moi, deux de mes sœurs, on prend l'avion, donc on est dans l'avion avec mon père qui est en soute. Hein. Et puis le voyage se passe et puis avec mes sœurs, on s'interroge, on se dit comment ça va se passer parce qu'on n'est pas préparé à ça. Et puis j'avais une énorme appréhension parce que je me rends dans un pays que je connais pas. Je suis assez stressé en fait. Bon, on arrive à Alger, à l'aéroport, et puis là, pareil, je vois une grande partie de ma famille que je connais pas, évidemment. Elle est là pour nous accueillir. Et puis, bon, bah, très très vite, on monte dans les voitures, parce qu'après, nous, pour aller dans notre village, le village de mon papa, il y a 1h30 de route. Et puis voilà, et on arrive au village. Je découvre ce pays, je découvre cette famille nombreuse, et puis ce qui est assez curieux, c'est qu'on rentre dans le village et les rues sont noires de monde. Parce que tout le monde sait que mon père arrive. Donc on arrive à la maison familiale et puis il y a une grande pièce. Et puis la première chose que font les hommes de la famille, ils prennent le cercueil de mon papa et puis ils l'exposent dans cette grande pièce. Et à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est pendant toute la fin de la journée et toute la nuit, les gens vont se relayer pour veiller mon père. Mais mes sœurs ne pouvaient pas veiller mon père en même temps que moi parce qu'il y a un temps pour les femmes et un temps pour les hommes. Donc j'ai pu observer toutes ces femmes qui étaient en train de se recueillir autour de mon papa. Je suis marqué par la beauté des femmes, leur dignité et puis leur tenue traditionnelle, qui sont bariolées de toutes les couleurs. Elles ont une espèce de coiffe avec, alors moi j'appelle ça des petits pompons, mais c'est vraiment une tenue traditionnelle, une ceinture, des robes amples avec des super beaux motifs et très colorées. Et j'ai trouvé ça bienvenu de voir toutes ces femmes dans la pièce. Parce que mon père était attendu et je pense qu'elles sont faites belles de manière traditionnelle pour l'arrivée de mon père, en fait. Elles étaient toutes belles, des plus jeunes aux plus âgées. Et puis voilà, alors les femmes pleurent, évidemment, les hommes aussi, un peu moins, mais bon, voilà. Donc en fait, les gens disent une dernière fois au revoir à mon père, ils le veillent, quoi. Et la nuit arrive, et là, je revois cet imam qui était à Paris. Donc je discute avec mon cousin, il y a l'imam en face de moi, et je lui raconte juste une petite chose, je lui dis, voilà, mon fils Kim, il adorait son papy. Et en fait, Kim, il a dessiné, en fait, de mémoire, un portrait de son grand-père, mais vraiment très réaliste, quoi. Et avec écrit, il avait écrit, je t'aime papy, voilà. Et donc, j'ai demandé via mon cousin si c'était possible de mettre ce dessin dans le cercueil de mon père. Et je discute avec l'imam et il vient me voir et me dit non, ça va être compliqué, l'imam il veut pas qu'on mette le moindre objet dans le cercueil de ton père et tout. Donc veto à Paris, il veut pas qu'on embrasse, qu'on touche mon papa, et veto, il veut pas qu'on mette le moindre élément dans le cercueil de mon père. Bref, donc du coup je veille mon père toute la nuit et puis on arrive le lendemain et c'est le jour de la mise en terre. Ça va très très vite, en 24 heures c'est plié, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a fait un convoi et on s'est arrêté à la mosquée. Connaissant mon père, je me dis, tiens, c'est curieux, on s'arrête à la mosquée. Et puis mon cousin me dit, bon, tu sais, Karim, c'est le protocole, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, avant la mise en terre, il y a eu la veillée, maintenant il y a une dernière prière pour accompagner la mise en terre de ton père. Ok, et donc, j'ai pas pu rentrer dans la mosquée. Ils m'ont dit, écoute, ça va être assez particulier, c'est des sourates, c'est des nanas, c'est mieux si t'es musulman pour y assister. Bon, voilà, peut-être que j'aurais fait tâche au protocole parce que je suis pas musulman, j'en sais rien, mais moi ça m'arrangeait en fait de pas rentrer dedans, parce que tout ce qui est lieu religieux comme ça, que ce soit une église, une cathédrale, une mosquée, en fait je suis pas très à l'aise avec ça. Pendant que nous, les hommes de la famille, on a fait cette étape à la mosquée, toutes les femmes se sont rendues sur nos terrains. Alors, il faut savoir que nous, dans nos terrains, en fait, on a un cimetière familial. Et donc après, bah voilà, c'est reparti, remet le cercueil dans le camion, et puis il y a une grande procession avec toutes les voitures. Je me rappellerai toujours, mais j'étais dans le camion devant le cercueil, et puis voilà, je regardais au loin... Sur le chemin, toutes ces voitures au milieu des oliviers qui suivaient le cortège. On arrive sur le terrain familial et je ne vois pas mes sœurs. Et en fait, je vois que toutes les femmes sont sur la terrasse. Cette terrasse, elle surplombe en fait les terrains familiaux et notamment cette petite parcelle qui est le cimetière familial. Et là, je comprends en fait que mes sœurs ne vont pas être avec moi. Pendant tout ce processus, elles n'ont pas le droit d'être là. Elles sont juste spectatrices silencieuses. Donc ça a été très très vite, hein. On a mis le cercueil en terre. Et donc quand on a mis le cercueil en terre, avant que je fasse la première pelletée, en fait je suis descendu et j'ai glissé le dessin de mon fils. Voilà, je l'avais promis, je l'ai fait, donc voilà. Je suis remonté sur le talus, j'ai mis un premier coup de pelle et puis très très vite les hommes ont bouché le trou, ça m'avait assez marqué. Et pendant que tout ça se passait, j'avais des regards complices avec mes sœurs. Et puis il y a ce fameux imam qui lance une prière et donc tous les hommes prient. C'est super émouvant. Hein. Et au loin, en plus, ce qui était magnifique, c'est que non seulement il faisait beau, mais tu voyais les Djurdjuras, les magnifiques montagnes. Donc ils ont fait une grande, grande prière et puis voilà, tout le monde est reparti dans le silence. Et moi, je suis resté tout seul et j'ai dit à mes sœurs de descendre. Et il y a mon oncle qui vient me voir, qui me dit « Karim, tu sais, on le laisse tranquille. » Faut qu'on s'en aille maintenant. Je sais que tu as envie de rester avec tes sœurs pour te recueillir, mais en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas y aller demain matin. C'est comme ça, j'ai pas posé de questions, j'ai dit ok, bon. Donc voilà, et puis le lendemain, en fait, on s'est retrouvés tous les trois à se recueillir devant la tombe de mon père. Et puis voilà, donc pour résumer, c'est vrai que ça s'est passé très 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 vite, mais j'étais content que mon père puisse être mis en terre au pays parce que j'imagine que c'était son souhait vu qu'il voulait finir ses jours là-bas. Je garde plutôt un bon souvenir de ce moment-là, quoi. Parce qu'on est aidé, parce que tout est géré, et puis parce qu'ils ont l'habitude, quoi. Ils ont l'habitude de suivre un certain protocole quand il y a un défunt, quoi. Puis moi j'y suis retourné après 40 jours parce que c'est la tradition qui veut ça. Au bout de 40 jours, on dit que c'est à ce moment-là que l'âme, que le défunt, il va vraiment s'élever. Et toute la journée, on a fait des courses. Toute la journée, on a préparé à manger. Toute la nuit, les femmes ont fait le couscous. Et en fait, le lendemain matin, à l'aube, on s'est retrouvé dans les rues du village à distribuer du couscous pour tout le monde. Aussi bien des gens, pharmaciens... Des routiers, des ouvriers, tout le monde s'arrête pour manger du couscous et c'est un hommage en fait aux défunts. J'ai trouvé ça super parce que voilà, on a préparé, tout le monde partage un moment comme ça. Et puis moi je suis remonté sur le terrain de mon papa et puis on s'est retrouvé en fait à manger le couscous autour de la tombe de mon père. Et ça c'est un super souvenir que je garde. Voilà. Moi j'ai pris une claque hein, sur cette culture, c'est comme si toute ma vie j'avais un œil fermé, puis là avec le temps je vois clair et je comprends mieux cette culture kabyle, cette culture berbère, et j'ai appris énormément de choses, notamment avec un de mes cousins qui est très féru en la matière. Il m'a raconté des tas de choses et j'en sais un peu plus sur ma culture. On a refait ce lien, alors ça s'est passé dans des conditions malheureuses, mais j'ai refait ce lien avec ce pays et j'ai pas envie de le défaire, et maintenant il m'appartient de l'entretenir. Et ça, c'est important.
J'ai 37 ans, je m'appelle Sada, je suis d'origine algérienne. J'ai vécu à 19 ans un enterrement en Algérie qui m'avait profondément choquée. J'ai enterrée mon mari, c'était en février 2001, c'était soudain, parce qu'il a eu un accident en Espagne, à 27 ans. Il a perdu la vie. Un accident de voiture sur l'autoroute en Espagne. Mon mari voulait absolument être enterré en Algérie, c'était presque normal. On en avait déjà parlé parce qu'il avait perdu son père très jeune et qu'il voulait être près de son père. Ses parents venaient d'un petit village qu'on a de Sidi Ali, sur la côte ouest algérienne. Voilà, donc accident en Espagne, près de Madrid, donc le choc. Et puis on a suivi un peu le cortège du cercueil jusqu'en Algérie. Alors l'arrivée à l'aéroport, c'était très angoissant parce qu'il y avait une masse de personnes qui nous attendaient. C'était presque même étouffant. Et ensuite, on a le trajet jusqu'à la maison familiale. Et à la maison familiale, on a de nouveau des centaines de personnes qui nous attendent. Ça m'avait très impressionné, le brouhaha. Et surtout, on a été séparés. Et les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, et nous, on a été comme soufflés par plein de femmes qui nous emportaient, avec les pleureuses d'un côté, des personnes qui nous presque arrachaient. Ça faisait vraiment star de rock'n'roll où on nous, voilà, il fallait nous toucher ou nous faire comprendre qu'ils partageaient leur peine avec nous. Enfin, ouais, c'est une image qui m'avait choquée. Donc j'avais besoin tout de suite de m'isoler, donc j'ai pas assisté au théâtre des pleureuses et j'ai souhaité m'isoler rapidement. La première nuit, on a installé le cercueil dans le salon. Il était enfermé en fait. Moi j'avais sollicité même de passer ma dernière nuit un peu avec lui, on me l'avait interdit. Donc la première nuit se passe et le lendemain matin, la première chose qu'on m'a dite, ma mère en particulier, c'est de me demander si j'étais enceinte. Et ça m'avait surpris en fait. Et du coup, on m'a très vite indiqué qu'il y aurait la prière du matin, donc qui était réservée aux hommes, et que par la suite, on procéderait à l'enterrement. Donc, lorsqu'on m'a indiqué que la prière était finie, qu'il faudrait lui dire au revoir, machinalement j'ai été, mais je comprenais pas. Et j'avais trouvé ça même suspect. Je leur ai dit, mais on va l'enterrer, et je lui dirai au revoir à ce moment-là. Et on m'a dit, simplement, mais tu es une femme. L'enterrement n'est pas réservé aux femmes. Et là, ça a été, Ça a été un coup de massue, en fait. On m'a simplement expliqué que la place d'une femme n'était pas normale, n'était pas souhaitable le jour de l'enterrement, qu'il fallait laisser cette place aux hommes, car les femmes étaient trop faibles, qu'il fallait pas pleurer devant un cercueil parce que ça brûlait le corps du défunt. J'avais l'impression qu'on me tuait ma moitié une deuxième fois. J'ai vraiment vécu ça comme une injustice, en fait. Pour moi, il était impensable que je ne sois pas, quoi. J'étais presque à la limite de l'hystérie, donc pour moi, j'irai, point la ligne. Même s'il fallait que je m'habille en homme, j'irai. Et alors, avec deux mèches avec mon frère, on a trouvé une solution pour que je puisse y assister. Et en fait, mon frère m'a dit « Bah non, tu vas juste te déguiser en femme. » Il m'a tendu ce qu'on appelle une merfa. C'est donc le grand drap blanc traditionnel. Et donc, on a suivi le cortège en cachette, 10-15 mètres plus loin. En tant que femme avec un voile blanc, je pouvais y aller incognito en faisant semblant d'aller me recueillir dans une autre tombe. Et j'étais à peu près 20 mètres. Et j'observais et j'ai assisté comme ça à l'enterrement de mon mari, dissimulé derrière un voile. J'ai laissé mes larmes couler de loin. Et d'ailleurs, j'ai observé que les hommes ne sont pas plus courageux. Et j'ai vu mon beau-frère faire un malaise au moment de mettre le cercueil sous terre. Donc... c'est là où j'ai trouvé ça, mais vraiment hypocrite. En fait, on interdit peut-être les femmes de ne pas y aller pour ne pas voir la faiblesse des hommes, simplement. Donc voilà, j'ai observé de loin. Ça a été très rapide, en fait. Les hommes ont descendu le cercueil, ils ont récité une prière, et en troupe, ils sont partis. Et une fois leur départ, j'ai pu me recueillir sur la tombe. Voilà, moi, avec mon œil occidental, française d'origine algérienne, pour moi, j'ai vu ça avec un œil différent et avec un œil de veuve, d'une femme qui voulait simplement dire adieu à son mari. Et un an après, j'ai vécu le décès de ma mère. Et bizarrement, je me suis dit, bah, comme c'est une maman, c'est une femme... j'aurais le droit d'assister à l'enterrement. Et au moment où ils ont pris le cercueil pour emmener ma mère au cimetière, j'avais pas pensé à trouver une voiture, j'avais pas de complice, j'avais pas... Et je me souviens que je suis restée dehors en larmes. Je me suis dit, merde, j'avais pas anticipé. J'avais fait la toilette funéraire. J'avais assisté à ces dernières heures et ayant participé à toutes ces étapes, pour moi, c'était encore une fois une évidence. Et du coup, j'ai essayé de trouver tout de suite une voiture. On m'a dit non, pas les femmes. Donc, ils l'emmènent et ça a été super vite. Et j'ai vu mes frères porter le cercueil de ma mère et j'ai pas eu le temps de me retourner que de prendre une veste. Et partir, que j'ai vu toutes les voitures pleines et la seule qui était prête à m'accueillir, on m'a fait encore comprendre que non, ça va pas être possible, quoi. Et je me souviens donc d'être restée hébétée, encore une fois, en colère parce que j'avais pas pu anticiper, parce que j'avais pas prévu une voiture, un taxi pour m'emmener. Et là, ça a été hyper douloureux pour moi. Après les 40 jours, on fait ce qu'on appelle une sadaka, c'est-à-dire une œuvre de charité. Donc on fait un grand couscous. Et ma mère m'avait dit avant qu'elle décède que quand on faisait une sadaka, une œuvre de charité, la personne qui était partie son étoile se remettait à briller parce qu'on avait pensé à elle à travers un acte de charité. Et on a fait les 40 jours pour ma mère. Ce jour-là, il neigeait. J'avais trouvé ça magique. Et aux 40 jours, on a la tristesse, on arrive à se remémorer les jolis souvenirs, les jolies choses. Et la colère était passée. Mais de ne pas avoir vu ma mère descendre sous terre, j'ai jamais réussi à faire une partie de son deuil. Ou encore aujourd'hui, j'ai perdu ma mère à 22 ans, j'en ai 37 et je suis incapable de m'approcher du cimetière sans avoir des palpitations au cœur, sans me sentir mal. Autant aujourd'hui, j'ai l'impression que ma mère est partout autour de moi, mais il n'y a qu'un seul endroit où je ne peux pas aller et où pour moi elle ne peut pas y être. C'est sous cet amas de terre. J'ai pas pu l'assister ou l'accompagner. Donc pour moi, elle n'y est pas. Alors que pour Ali, un an plus tôt, j'y avais assisté, je sais pas. Et je peux m'asseoir à côté de sa sépulture et lui parler. Et je peux pas le faire pour ma mère.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre avec deux histoires d'enterrement en Algérie. Un reportage de Séam Boutata réalisé par Delphine Lemaire. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des pieds sur terre et Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux.